Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
À l'occasion de l'exposition « Le regard en acte » qui porte sur l'œuvre de Robert Ryman et qui a lieu à l'Orangerie à Paris et a été conçue par la directrice du lieu, Claire Bernardi, et qui court jusqu'au 1er juillet 2024, nous nous attardons aujourd'hui sur cet artiste américain. Robert Ryman est né à Nashville en 1930 et il est mort à New York en 2019. Robert Ryman est peintre. Il réalise depuis la fin des années 50 des tableaux qu'il décrit comme réalistes. Il veut dire par là qu'il met en évidence leur support, leur sous-couche, leur touche, leur surface, les espaces et les limites de la peinture. Il fait ceci sensiblement avant l'époque de support-surface qui s'attache à ces mêmes questionnements. Dans ses recherches, sur les possibilités offertes par la peinture, Robert Ryman ne cesse d'expérimenter tant à partir des matières et des matériaux traditionnels, peinture à l'huile, mine graphite, mine d'argent, fusain, peinture acrylique, toile de coton ou de lin, papier, qu'avec des matériaux peu conventionnels, peinture à l'émail, craie, peinture à base de polymères synthétiques, support à base de plastique ou de fibres de verre industrielles. Ses essais répétés tout au long de son œuvre reflètent sa démarche, qui peut se résumer par comprendre comment fonctionne la peinture et ce qui s'opère quand on en modifie les paramètres matériels. Pour ce faire, Robert Ryman exclut toute image, tout contenu extra-pictural, toute représentation pour faire des peintures blanches, les plus souvent carrées, de grandes et de petites tailles. Et lorsqu'on fait l'expérience, lorsqu'on se trouve dans la même pièce avec une œuvre de Ryman, comme on peut en faire à présent à l'Orangerie à Paris, disons-le tout de suite, cette expérience immédiatement contredit les mauvaises langues d'hier et d'aujourd'hui qui taxent son œuvre de pauvre, voire de fumiste. Puis, nous faisons aujourd'hui pour cette émission le choix non pas de décrire les œuvres, ni de commenter la scénographie de l'exposition, mais plutôt de la compléter en lisant une conférence donnée par Ryman en 1991. Notons d'abord quelques mots biographiques sur Robert Ryman. En 1953, Robert Ryman déménage de Nashville pour s'installer à New York, avec l'intention de devenir saxophoniste professionnel de jazz. Rapidement, en 1954, pour boucler les fins de mois, il prend un travail durant la journée en étant gardien du musée, et où il voit pour la première fois une toile de Marc Rothko et est très impressionné par celle-ci. Au musée, d'autres futurs artistes travaillent en tant que gardien ou à la sécurité et il y rencontre Sol Levitt, Dan Flavin, mais également Roy Lichtenstein durant les années 50. Attiré par la peinture, il achète des fournitures aux marchands de couleurs et commence à expérimenter la peinture dans son appartement en 1955. De 1961 à 1966, il est marié à Lucy Lippard, écrivaine, activiste et conservatrice américaine. Lippard est l'une des premières historiennes d'art à reconnaître la dématérialisation à l'œuvre de l'art conceptuel et est une figure importante de l'art féministe. Leur fils, Ethan Ryman, né en 1964. En 1967, Ryman a sa première exposition personnelle à la galerie Paul Bianchini à l'âge de 36 ans. Puis, en 1969, Robert Ryman se lie à l'artiste Meryl Wagner. Le deuxième et le troisième fils de Robert Ryman naissent respectivement en 1969 pour Will Ryman et en 71 pour Cody Ryman. Cette même année, en 1971, Robert Ryman a également sa première exposition muséale au musée Salomon Guggenheim de New York. Revenons à l'exposition au musée de l'Orangerie, bâtiment qui abrite le chef-d'œuvre de Claude Monet, Les Nymphéas, et qui met l'œuvre de Ryman en dialogue avec Monet, même si Ryman refusait pourtant la notion d'influence ou l'idée d'exposer un dialogue avec un autre artiste. Mais, comme tout artiste, il s'inscrit malgré lui dans l'histoire de la peinture en interrogeant chacun des aspects et des fondements de la peinture. La commissaire Claire Bernardi écrit à ce propos « Comme Monet avant lui, Ryman concentre ses recherches de façon presque obsessionnelle sur les spécificités propres à son médium, interrogeant les notions de surface, de limite de l'œuvre, d'espace dans lequel il s'intègre, de lumière avec laquelle elle joue et de durée dans laquelle elle se déploie. C'est autour de ces notions simples, surface, limite, espace, lumière, durée, que l'exposition s'articule. Regardons sa peinture comme l'artiste nous incite à le faire, comme une peinture active qui convoque tout autant le regard du peintre que celui de ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire les visiteurs ou plutôt le regardeur. Mais donnons maintenant la parole à l'artiste lui-même. Robert Ryman n'est plus là pour accompagner son œuvre, mais en 1991, il a donné une conférence que nous allons lire ici. Ajoutons en un mot que son premier fils Ethan, qui est aujourd'hui artiste, tout comme ses deux frères, dit de son père. Lorsque je posais des questions à mon père, j'obtenais le plus souvent une réponse d'un mot. Pour obtenir des réponses, je devais assister à ses conférences, au cours desquelles il m'expliquait l'art moderne. Après l'avoir écouté, il m'a semblé que nous devrions tous peindre. Sinon, que ferions-nous de notre vie ?
Grammaire fantôme.
Robert Ryman, de la peinture. Je pensais que je parlerais très brièvement de certains aspects fondamentaux de la peinture et j'espère ne pas trop vous ennuyer en répétant des choses que vous savez déjà. Mais j'estime que de temps en temps, il vaut la peine de se pencher sur les principes de base vu que nous sommes généralement trop impliqués dans les complexités de la peinture et du monde des arts. Je pensais que je parlerais là encore, sans trop m'étendre de certains aspects de la peinture, des procédés picturaux, de la façon dont une œuvre prend naissance et de son ultime achèvement par le collectionneur à qui il incombe de présenter l'œuvre au public d'une manière qui en révèle l'esthétique. Vous savez que je ne suis ni historien d'art, ni un érudit, je me base donc simplement sur des observations. Je commencerai par le premier procédé qui occupe une place importante dans la peinture. C'est la représentation. Nous savons tous ce qu'est la représentation. C'est ce que nous voyons presque partout et que de nombreux artistes s'attachent à produire. Je voudrais simplement évoquer ses bases, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une image confinée à l'intérieur d'un espace délimité, la toile, et cet espace étant généralement séparé du mur par un cadre. Le cadre est là pour de bonnes raisons. Il fait converger le regard sur la toile et sépare l'illusion, puisqu'il s'agit d'une image, de la surface murale. Toute représentation est illusion. C'est une image des choses que nous connaissons. Et puisque nous connaissons l'image, celle-ci raconte toujours une histoire. La narration est parfois très directe, parfois plus subtile, mais l'histoire est toujours là. Et l'esthétique est une esthétique dirigée vers l'intérieur, comme si le tableau avait son petit monde à soi, dans lequel pénètre notre regard. Le cadre constitue donc une aide à cet égard. Le second procédé est l'abstraction. C'est un terme qui a fait l'objet d'interprétations diverses. On m'a dit que Picasso ne s'était jamais considéré comme un peintre abstrait. Pourtant, j'estime que Picasso est un bon exemple de peintre abstrait. Ainsi, l'abstraction peut prendre différentes significations selon le point de vue de chacun. Personnellement, j'utilise ce terme en sens d'abstraire de. Et dans ce sens, l'abstraction a offert aux peintres une nouvelle dimension. Elle leur a offert la possibilité d'élargir la peinture. Mais de l'autre côté, l'abstraction a conservé essentiellement les mêmes moyens d'utilisation qu'utilise la peinture figurative, tels que l'image et le contenu symbolique. L'histoire est toujours encore là et souvent le cadre garde la même fonction d'isoler l'illusion du plan mural. Et bien que le procédé consistant à faire l'abstraction des choses connues ait ouvert aux peintres de nouvelles voies, il reste dans son essence très proche de la peinture figurative, de la représentation. L'esthétique y est dirigée, là aussi, vers l'intérieur. Il y a un troisième procédé auquel on a donné les noms les plus divers, dont aucun n'est satisfaisant. On l'a appelé concret ou peinture concrète, on l'a appelé absolu, non objectif ou même abstrait. À mon avis, ces étiquettes ne sont pas très heureuses. Il me semble d'ailleurs que le Guggenheim Museum s'appelait à l'origine Guggenheim Museum of Non-Objective Painting. Non objectif. Ne dis pas ce que c'est. Voilà pourquoi je préfère appeler ce troisième procédé réalisme. Qu'il ne s'agit pas de confondre avec la représentation. Je l'appelle réalisme parce que l'esthétique y est réelle. Ce troisième procédé, le réalisme, se distingue de son application de la peinture de représentation et de la peinture abstraite. Avec le réalisme, il n'y a pas de représentation. L'esthétique y est dirigée vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Et puisqu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas non plus d'histoire. Et pas de mythe. Et avant tout, pas d'illusion. Les lignes sont réelles. L'espace est réel, la surface est réelle, il y a, contrairement au procédé d'abstraction ou de représentation, une interaction entre le tableau et la surface murale. Je reviendrai sur ce point dans un instant, mais je voudrais auparavant parler du commencement d'un tableau. Un tableau commence avec les matériaux. J'entends par matériaux les outils du peintre, bien sûr. La peinture, les brosses, le support, etc. Il peut paraître bizarre que je mentionne ceci en premier, mais j'estime que c'est important. C'est vraiment le commencement. Les peintres disposent aujourd'hui d'un matériel beaucoup plus important que par le passé. Il y a 30 ans, on n'avait pas de peinture acrylique. Et si on voulait travailler avec une couleur soluble à l'eau, il fallait utiliser soit la gouache, soit la caséine, soit encore les aquarelles traditionnelles ou, éventuellement, la tétrompe. Aujourd'hui, il y a l'acrylique, les polymères, les résines, le vinyle. Ces nouveaux matériaux offrent au peintre un choix beaucoup plus vaste. Il va alors décider de la façon dont il va les utiliser et les conjuguer, ceci en fonction du procédé qu'il a choisi et du résultat qu'il veut atteindre. Les choses sont donc devenues plus complexes. Bien entendu, le peintre utilise et combine ces matériaux avec une connaissance historique des divers procédés qui ont permis au peintre de progresser. Un peintre a besoin de comprendre le passé. Il doit savoir comment accorder les matériaux entre eux et aussi comment lui-même voit les choses, sa vision spécifique. On apprend aux gens à contempler la peinture d'une certaine manière, de celle qui semble être la bonne. Cela est dû en partie à notre culture. Mais les peintres ont un sens plus fin pour cette façon particulière dont les choses vont ensemble. Même si l'histoire de la peinture fournit des bases pour la façon juste de voir, chaque peintre aura, dans sa vision des choses, sa propre perspective. C'est précisément un des devoirs du peintre d'essayer d'élargir notre façon de voir jusqu'à la conduire le plus près possible de sa propre vision. Il utilisera donc tous les moyens disponibles, les matériaux aussi bien que la perception, pour réaliser son tableau. Mais le tableau ne sera pas achevé pour autant. C'est là qu'entre en jeu le collectionneur chargé d'achever le tableau. Le collectionneur peut être l'artiste lui-même, ou en particulier, ou encore une institution. À chacun incombera cette même mission d'achever le tableau. Quand je parle d'achever le tableau, je n'entends pas en être propriétaire, mais le présenter d'une manière qui en fait apparaître l'esthétique. Cette étape a une grande importance car pour atteindre son achèvement, le tableau doit être vu de la façon juste. Dans la peinture figurative ou même abstraite, cette tâche est moins ardue. On choisira peut-être le cadre approprié pour une bonne focalisation, on décidera de ce qui pourrait être placé à proximité et quels en seront les rapports avec le tableau. Les tableaux figuratifs peuvent même être accrochés l'un au-dessus de l'autre. Les cadres le permettent parce qu'ils dirigent le regard sur l'esthétique intérieure. Mais avec l'approche réaliste, et vous savez maintenant ce que j'entends par ce terme, cette mission de présentation s'avère plus complexe parce que la situation est différente. On a cette esthétique dirigée vers l'extérieur. Il y a quelques années, j'ai lu une critique, c'était peut-être un article de presse, sur une exposition de mes œuvres en Europe, où l'auteur disait que les peintures avaient une présence très forte et il ne comprenait pas pourquoi il en était ainsi. Chez Mondrian, par exemple, qui est un peintre réaliste, il y a cette présence. Elle s'explique par l'esthétique tournée vers l'extérieur, qui engendre une interaction particulière du tableau avec le plan du mur et même, jusqu'à un certain degré, avec l'espace d'exposition. Il est vrai que le réalisme utilise les moyens propres à l'abstraction et la représentation, tels que composition, complexité des couleurs, surface picturale, lumière, lignes, etc. Le seul élément qui n'entre pas en jeu est l'image, l'illusion. Il s'agit donc d'avoir une certaine sensibilité à cette différence lorsqu'on présente une œuvre réaliste. Par exemple, le tableau ne devrait pas être placé sur un mur visuellement actif tel qu'un mur lambrissé ou un mur en briques. Celui-ci engagerait une interaction avec le tableau et le réduirait. Dans le cas idéal, le mur serait une surface lisse et d'une couleur neutre, car la couleur elle aussi pourrait agir sur le tableau. Là aussi, à cause de l'esthétique dirigée vers l'extérieur, il faut être attentif à ce qui viendra se placer à proximité du tableau, de veiller à ce que ce soit ni trop proche ni trop voyant. Tous ces aspects doivent être considérés afin de prendre les décisions appropriées. Un autre élément important est la lumière qui, avec le réalisme, obtient une autre fonction. Elle y est réellement active alors que dans la représentation et l'abstraction, elle sert en premier lieu à éclairer le tableau de manière à ce qu'il puisse être vu. De la peinture réaliste, la lumière devient un élément constitutif du tableau. Elle est réfléchie ou absorbée par la surface picturale ou même par le plan du mur. Par cette implication du milieu environnant, on arrive à focaliser le tableau dans une plus grande clarté. Je crois que beaucoup de temps s'est écoulé avant qu'on ne réalise que l'image proprement dite n'était plus là, que quelque chose avait changé, que la peinture avait effectivement abordé un autre problème. Et pour en revenir à Mondrian, lui-même a souvent intégré ces cadres de la composition picturale. Malheureusement, nombre de ces peintures ont été altérées au cours des années, puisqu'on leur a ajouté d'autres cadres et du verre. Il est regrettable que lorsqu'un tableau prend de la valeur, on ressente le besoin de le protéger d'une façon qui parfois le détruit. Lorsqu'on met un tableau sous verre, et cela est vrai pour les œuvres de tout le temps, on crée une nouvelle surface. Une surface réfléchissante qui auparavant n'existait pas. À cela s'ajoute le châssis pour le verre. C'est vraiment regrettable que de telles choses arrivent. Le problème est moins délicat dans le cas de la peinture strictement figurative puisque le regard converge toujours vers l'intérieur. Mais pour la peinture réaliste, c'est un désastre. Avec la conception figurative, un peintre peindra un coucher de soleil une douzaine de fois peut-être. Et chaque fois, ce coucher de soleil sera différent. Et chaque fois, le tableau portera la touche personnelle du peintre et exprimera sa vision spécifique. Et chaque coucher de soleil sera unique et pourtant semblable, puisque le peintre travaille sur un espace spécifique et limité, toujours avec la même couleur peut-être, ou sur la même surface. Je pense qu'une des choses que le réalisme a offertes au peintre est cet éventail de possibilités qui auparavant n'étaient pas disponibles. Car si on ne peint pas une image, ni une histoire, ni autre chose de familier, que peut-on faire? Que reste-t-il? Ce défi était passionnant pour moi, puisque les outils de travail étaient alors encore là. Je parle de tous les moyens traditionnels qu'utilise le peintre, la couleur, la surface picturale, etc. On pouvait donc s'en servir. Alors j'ai essayé de rendre la surface picturale, la structure, la ligne, etc. aussi directe que possible. Par exemple, si je voulais peindre une ligne, je ne traçais pas réellement une ligne, mais une zone de peinture. Puis m'arrêtais, et c'est à la limite de cette zone peinte, à sa rencontre avec une autre surface, qu'apparaissait une ligne. Ce n'était donc pas tout à fait comme si j'avais représenté une ligne. L'émotion était différente. Bien sûr, je pouvais utiliser les couleurs des surfaces, les bords, tenir compte du plan mural et de son rapport avec le tableau. Celui-ci sera-t-il éloigné ou rapproché du mur? Épais ou fin? Quel en sera le bord? Car le bord du tableau est lui aussi une ligne. Mais pas une ligne peinte, c'est l'arête du support qui forme une ligne. Tous ces aspects resteront invisibles pour ceux qui regardent dans le tableau pour y saisir une image, parce qu'ils ne considèrent pas le mur comme une surface. Le tableau ne sera pas ressenti en fonction de cette ouverture, de cette esthétique tournée vers l'extérieur. Une chose qui, je crois, préoccupe tous les peintres et qu'ils ne souhaitent pas devenir trop familiarisés avec les techniques de la peinture. Pour qu'un tableau soit bon, il doit donner l'impression d'un accomplissement sans effort, d'une évidence, d'une chose qui est arrivée, on ne sait comment. Mais cela ne veut pas dire que le tableau est simple ou facile. Le peintre ne peut pas se permettre d'être trop à l'aise. Ce serait la preuve que quelque chose ne va pas. Le tableau ne peut pas se développer. Il ne sera pas aussi immédiat et surprenant que devrait être un bon tableau. Et c'est là, j'en suis toujours conscient. Récemment, je n'étais pas entièrement satisfait de certaines de mes œuvres et j'ai senti qu'il fallait que je me pose certaines questions sur moi-même et sur ce que je faisais. Cette situation n'a rien d'anormal, elle fait partie de la vie du peintre. Cette conférence de Robert Ryman était suivie des questions de l'auditoire, et dont la première question était « Dans l'art figuratif et abstrait, on accorde une certaine liberté à l'objet, à la subjectivité. En d'autres termes, on peut considérer l'art dans différentes perspectives, philosophiques ou autres. Pour ce qui concerne votre art, votre réalisme, diriez-vous qu'il relève d'un propos plus absolu, que rien n'y est laissé à l'opinion subjective du spectateur. » Et Robert Ryman répond « Oui, je crois. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une expérience pure. Mais je crois qu'il y a autre chose encore, qui est difficile à expliquer à d'autres personnes, à moins qu'elles n'en aient fait l'expérience. C'est comme lorsque vous assistez à un concert où vous entendez un morceau d'une beauté incroyable et qu'à la sortie, quelqu'un vous demande ce que vous avez entendu. Vous serez capable de lui répondre. Vous direz qu'on a joué tel ou tel morceau, qu'il en était l'interprète, etc. Mais votre interlocuteur ne comprendra jamais l'expérience que vous venez d'avoir faite. Il aurait fallu pour cela qu'il y assiste lui-même. Je crois qu'il en va de même pour la peinture. Il faut la voir, en faire l'expérience. Les critiques d'art devraient se borner à dire qu'il faut aller voir telle ou telle chose ou qu'il ne faut pas y aller. Il y a tant de façons de peindre, mais je pense que dans toute peinture, il s'agit de jubilation, d'illumination et d'étonnement. L'étonnement est en rapport avec l'expérience et donc aussi avec la peinture.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panardia Lichtig.